Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Pour commencer, Sandra va nous lire Marc, chapitre 12, versets 1 à 12.
Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il alloua des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs aux vignerons pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur en envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais les vignerons se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venons, tuons-le. » Et l'héritage sera à nous. Et ils se jetèrent sur lui, le tuèrent et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne? Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture? La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et c'est un prodige à nos yeux. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent.
Merci Sandra. À présent, notre invité Alain nous rejoint sur le plateau. Il nous aidera à comprendre les paroles que nous venons d'écouter. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Dans ce texte, nous lisons la triste histoire d'un propriétaire de vigne qui loue sa propriété à des vignerons qui ne s'avèrent pas du tout dignes de confiance. En fait, les événements tournent très mal.
Oui. Il s'agit bien sûr d'une parabole, d'une histoire que Jésus a inventée pour faire passer des leçons spirituelles importantes. Mais avant d'aborder le sens de cette parabole, il est important de rappeler son contexte. De fait, Jésus enseignait les foules de pèlerins assemblées dans les cours du temple à Jérusalem. Les foules étaient nombreuses car la grande fête de la Pâque s'approchait. Parmi la foule se trouvaient des chefs religieux qui surveillaient Jésus avec de mauvaises intentions. Ces chefs s'opposaient à l'enseignement de Jésus et ils cherchaient une occasion pour se débarrasser de lui. Ils allaient bientôt y parvenir, car en effet, deux ou trois jours seulement après les discours de Jésus au temple, il sera trahi, il comparaîtra de ce fait devant un tribunal corrompu, qui le condamnera à mourir sur une croix.
Il me semble que la parabole que Jésus raconte envisage une telle fin car le fils du propriétaire est tué par les vignerons cruels.
C'est exact, Yann, et je peux dire que cette parabole nous donne un résumé concis et triste de l'histoire du peuple d'Israël.
Expliquez-nous cela davantage.
Même dans l'Ancien Testament, les prophètes dépeignent parfois le peuple d'Israël au moyen d'images tirées du monde viticole. Dans la parabole, le propriétaire de la vigne représente Dieu et les travailleurs ou les locataires représentent son peuple. Il s'agit d'un peuple choisi et privilégié, d'un peuple à qui Dieu a confié des responsabilités, tout comme les travailleurs de la vigne devaient rendre au propriétaire une partie de la récolte, le peuple d'Israël devait rendre à Dieu adoration, confiance, fidélité et obéissance. Mais trop souvent, ce peuple s'est éloigné de Dieu pour pratiquer l'idolâtrie, l'injustice et l'immoralité. Puis de même que le propriétaire envoya des serviteurs pour réclamer ce qui lui était dû, Dieu envoya des prophètes pour rappeler son peuple à l'ordre. Malheureusement, ainsi que la parabole le montre, ces prophètes furent mal accueillis, certains même furent cruellement maltraités.
Le propriétaire finit alors par envoyer son fils, dans l'espoir que celui-ci serait mieux respecté que ses serviteurs.
C'est exact, Yann. Le fils dans la parabole représente Jésus. Comme nous l'avons déjà souligné, ce qui lui arriva préfigure la mort violente qu'il allait bientôt subir. Déjà, les chefs religieux complotaient ensemble cherchant le moyen d'arrêter Jésus, de le traduire devant un tribunal romain pour l'accuser faussement.
D'ailleurs, Marc, l'auteur de l'Évangile, nous révèle que ces chefs religieux savaient que par cette parabole, Jésus visait leurs mauvaises intentions.
Oui, malgré cet avertissement, les chefs religieux n'ont pas changé d'attitude. Et Jésus est très clair sur les conséquences qu'ils auront à subir, car la parabole se termine ainsi. Le propriétaire de la vigne exercera la justice, les malfaiteurs seront exécutés pour leurs crimes, et la vigne sera confiée à d'autres locataires. Autrement dit, Dieu est juste, et ceux et celles qui s'obstinent dans leur opposition à Jésus-Christ en subiront les conséquences. Et ces conséquences sont le châtiment divin.
Les propos de Jésus sont très solennels, mais comment la justice de Dieu s'accomplit-elle?
En l'an 70, environ 35 ans après cet épisode, la ville de Jérusalem et son temple furent entièrement anéantis par l'armée romaine. Le peuple d'Israël, à l'exception d'une petite minorité, avait rejeté Jésus et s'opposait à l'Église. Beaucoup de commentateurs affirment que la destruction de Jérusalem représente l'accomplissement de la justice de Dieu dans ce contexte. Il faut ajouter toutefois que le jour où la justice divine qui marquera la fin de notre âge sera exercée, les événements seront encore plus terrifiants et éprouvants pour toute personne qui persiste à rejeter Jésus.
Merci Alain pour cet avertissement. L'enjeu est de taille et chacun est donc appelé à y réfléchir sérieusement. Puis, pour conclure la parabole, Jésus cite l'Ancien Testament. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Quelle est la signification de ces paroles?
Oui, il s'agit d'une citation du psaume 118 et d'une image tirée du domaine de la construction. En bref, l'illustration fait référence à une pierre que les bâtisseurs rejettent et refusent d'inclure dans leur projet, mais qui s'avère par la suite être la pierre la plus importante, celle sur laquelle tout l'édifice s'édifiera. Dans le contexte de la parabole de Jésus et des événements qui se déroulent à Jérusalem, relatés dans l'évangile de Marc, il est clair que cette pierre évoquée par le psaume représente Jésus. Jésus est rejeté par les chefs religieux qui vont bientôt le livrer à la justice romaine et à la mort sur la croix. Toutefois, cette citation suggère que Jésus deviendra un personnage de la plus haute importance.
Mais comment cela serait-il possible s'il est mort?
Heureusement, nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus est mort, en effet. Cependant, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Les ennemis de Jésus pensaient triompher de lui et s'en débarrasser. Toutefois, Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie et Dieu l'a proclamé Seigneur de l'univers. Jésus est vivant. Il est la personne la plus importante du monde. Il est au centre de la foi chrétienne et tout dépend de lui et s'édifie autour de lui. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon ni de réconciliation avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie éternelle.
Oui, Jésus est vraiment digne de notre adoration et de notre confiance. Quelles sont les leçons que nous devons retenir de cette parabole?
Je voudrais conclure avec une illustration semblable à celle donnée par Jésus. Imaginez que vous ayez une belle maison équipée de tout le confort moderne et que vous partiez en voyage pendant plusieurs mois. Vous avez des amis qui ont besoin d'un logement et vous leur proposez de vivre dans votre maison pendant votre absence. Vous voulez bien sûr retrouver votre maison en bon état et vous prenez le soin de donner à vos amis une liste de règlements et d'instructions à respecter pour assurer un bon entretien. Pourtant, dès votre retour, en s'approchant de votre maison, vous apercevez que quelque chose ne va pas. L'extérieur de la maison est sale et négligé, il y a des tas d'ordures et de déchets autour. Vous regardez par une fenêtre cassée et vous constatez que l'intérieur est encore pire. Des saletés partout, des meubles abîmés, des appareils électroménagers en panne. En colère, vous frappez à la porte. Mais l'un de vos soi-disant amis répond en criant « Allez-vous-en, vous n'habitez plus ici, cette maison est à nous maintenant. » Triste et contrarié, vous repartez pour mettre un peu d'ordre dans vos pensées. Vous décidez alors d'écrire un petit mot à vos amis et vous envoyez le chef du village le rapporter. Sur ce papier, il est écrit
« Mes amis, je vous ai confié l'usage de ma maison, mais je découvre que vous n'en êtes pas digne. Par la présente, je vous offre un choix. Vous pouvez ouvrir ma porte et me laisser entrer en ami. Nous travaillerons ensemble pour tout nettoyer, tout remettre en ordre, tout réparer. Si par contre la porte reste fermée, j'appellerai la police pour qu'il vous enlève de force de ma maison et je vous amènerai devant le tribunal, vous poursuivant en justice afin d'obtenir dommages et réparations. Réfléchissez bien. »
Merci. Il s'agit d'une illustration parlante. Alain, voulez-vous l'expliquer un peu ?
Dieu a créé toutes choses bonnes. Il a confié aux hommes et aux femmes les beautés de sa création riches en bonnes choses et désireux que nous puissions en jouir. Il a aussi donné des lois à respecter, des limites à notre liberté conçues pour nous garder du mal et de ses conséquences. Cependant, personne n'a entièrement respecté ces directives. Dans nos mains, les bonnes choses que Dieu a créées sont destinées à un mauvais usage. Du coup, nous sommes tous responsables d'avoir introduit dans nos vies et autour de nous le mal. Devant cet état de choses, Dieu a envoyé Jésus. Jésus peut être votre sauveur ou votre juge, à vous de choisir. Jésus se présente en ami à ceux et celles qui lui ouvrent leur cœur pour accueillir son pardon, pour accepter son règne et pour collaborer avec lui pour enrayer le mal et recréer ce qui est bon. Si par contre vous vous obstinez à fermer votre cœur à Jésus et que vous vous opposez à son règne bienveillant, sachez qu'à la fin de notre âge présent, il reviendra en juge et vous comparaîtrez alors devant le tribunal divin. À présent, c'est à vous de décider.
Merci Alain pour cet avertissement qui nous replace devant ce choix important. Nous vous encourageons, chers amis, à vous tourner vers Jésus, le Sauveur.
Alain sera de retour la prochaine fois pour poursuivre son étude de Marc, chapitre 12. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.